Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref. Autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Et je crois que ça me fait peur en fait de rentrer en France et de retrouver un de ce tiroir de vie que j'ai mis sur pause pendant 6 mois et je sais pas dans quel état je vais le retrouver et à la fois moi dans quel état je vais me retrouver aussi puisque je sais que j'ai énormément appris de moi-même et changé aussi intérieurement. Salut, c'est parti pour un nouveau récit d'aventure. J'ai encore eu du mal à prendre le micro, je me disais que j'allais rien avoir d'intéressant à raconter. Comme je me fais pas assez confiance, j'ai commencé à lister tous les différents points que je pouvais aborder dans cet épisode et c'était évidemment pour me rassurer. En faisant ça, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de choses à vous raconter depuis le dernier épisode et que cet épisode précisément pouvait même être très long. Donc comme quoi, il y a encore toujours des barrières à l'entrée, manque de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, qui font que on n'ose pas faire et qu'on procrastine. Et là, je me disais, je pourrais peut-être l'enregistrer demain ou après-demain. Et en fait, je me suis dit, mais non, Victoria, juste là, t'as plein de choses à partager depuis la dernière fois que t'as pris la parole. Donc juste, allume le micro, déroule et puis tu verras ce qui se passe. Donc me revoilà pour un énième récit d'aventure et pas des moindres puisqu'on est enfin arrivé en Mongolie. Et c'est très particulier pour moi de dire ça puisque la dernière fois que j'ai pris la parole, c'était en Inde. Donc il s'est passé énormément de choses en très peu de temps. J'ai l'impression que je dis toujours ça. Dès que je vous raconte un petit peu ce qui se passe, je dis « Waouh, mais en 1 semaine, 2 semaines, il s'est passé trop de trucs. » Et là, encore plus, puisqu'on rentre en France, donc comme la majorité des tournages étaient en Inde, maintenant, les pays qu'on traverse, c'est principalement un moyen pour rentrer en France sans avion, mais on ne fait pas de tournage en tant que tel. On filme quand même tout ce qu'on vit, les rencontres qu'on fait, les différents trajets. Mais on n'a pas de projet à proprement parler qui nous attendait comme on pouvait avoir en Inde. Donc on trace, en fait, pour tout vous dire, vu qu'on doit être rentré. Enfin, on doit, il y a toujours des nuances à apporter. Mais mon livre étant publié le 17 avril, il faut qu'on soit rentré pour fin mars. Donc j'enregistre cet épisode à Oulan-Bator, en Mongolie. Depuis notre départ de l'Inde, la fluidité du trajet retour, elle est hyper appréciable. C'est comme s'il y avait une force supérieure qui nous aidait en fait à rendre ce retour beaucoup plus doux. Même s'il y a eu énormément de préparation en amont, depuis le départ de l'Inde, on n'a pour le moment eu aucune difficulté au niveau du passage des frontières. Il y a tout qui roule comme si la France nous attendait avec impatience. Donc dans cet épisode, je vais revenir sur les grandes étapes qu'il y a eu depuis le départ de l'Inde jusqu'à aujourd'hui en Mongolie. avec ici et là des petites anecdotes éparses que je vais essayer de vous raconter. Je vais essayer de ne pas faire trop de digressions d'ailleurs, parce que je sais que je suis très forte pour ça. Donc c'est parti. Le départ de l'Inde, alors les au revoir ont été très difficiles puisque ça s'est un peu fait du jour au lendemain en fait. Moi je me projette jamais vraiment trop sur ce qui va se passer après. En tout cas c'est une chose que j'ai apprise à faire, sinon je me faisais des montagnes et des angoisses sur « Oh qu'est-ce qu'il va y avoir demain, qui je vais rencontrer, etc. » Et en fait ça ne se passe jamais comme ça. Donc j'ai appris à arrêter de projeter et là pour le coup j'avais pas du tout envisagé la fin de l'Inde. Et du jour au lendemain, on a passé cette fameuse frontière pour rejoindre le Népal. Et ça a été assez violent, bien que j'ai été dans le déni pendant plusieurs jours. En me disant qu'au final, bah si, j'étais encore en Inde et que c'était qu'un au revoir. Et qu'il suffisait de repasser la frontière dans l'autre sens et que c'était bon. Et puis au Népal, il y a quand même, c'est vrai, cette ambiance encore, cette culture indienne qui est quand même présente. Donc je me suis pas trop éloignée de l'Inde rapidement, mais je pense qu'aussi le fait d'avoir passé une frontière aussi facilement, ça me faisait dire que je pouvais la repasser aussi facilement, puisqu'on a passé la frontière donc terrestre à Sunoli. Et c'est vraiment la frontière la plus chill du monde, c'est-à-dire qu'on a... En fait, on a commencé à passer la frontière sans passer aucun contrôle. Et jusqu'à ce que quelqu'un nous dise « Mais vous êtes déjà au Népal ?» Alors qu'on n'avait aucun tampon de sortie de l'Inde, on n'avait pas passé nos bagages sous scanner, enfin rien du tout. Donc pour vous dire un petit peu l'ambiance de cette frontière, c'est comme si on traversait un passage piéton, quoi. Et pour cause, il y a beaucoup de personnes qui passaient cette frontière en toute illégalité, puisque elle courait et certains policiers essayaient de les retenir, mais de façon très légère, en disant « Non, non, non revenez », mais ils ne leur couraient pas après pour essayer de les rattraper. Donc je pense que voilà, d'avoir passé cette frontière aussi facilement, mentalement, je me disais, ça va, c'est juste à côté l'Inde. Puis après, ben voilà, on a enchaîné les kilomètres et très vite, je me suis éloignée de ce pays et j'ai accepté qu'on n'y était plus. Et je crois que je ne l'ai toujours pas tout à fait accepté, mais les rencontres qui se sont présentées sur notre route et tous les différents pays, paysages qu'on a pu traverser sont tellement riches et tellement magnifiques et tellement envoûtants que ça m'a vite apaisée avec les au revoir de l'Inde. Donc concernant le Népal, on a tout traversé en bus en une semaine à peu près. Donc c'est les routes les plus cabossées que j'ai jamais prises de ma vie. Et je crois que pour la première fois, j'ai vraiment eu peur sur la route en me disant qu'en fait, à tout moment, le bus pouvait chavirer et que c'était fini. Mais j'ai lâché prise puisque j'ai aucun contrôle sur la façon que peut avoir le conducteur de conduire, à moins de prendre le volant. Mais clairement, c'était une encore plus mauvaise idée. Donc j'ai lâché prise, je me suis dit « Écoute Victoria, il arrivera ce qui se passera, t'es dans ce bus, fais confiance ». Et les paysages étaient juste mais tellement, tellement, tellement beaux. J'ai rarement vu des paysages aussi beaux de toute ma vie, tout comme j'ai rarement eu aussi peur sur la route. Mais c'est vrai que ce pays est envoûtant. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le Népal. En fait, on prend l'Inde et c'est beaucoup plus calme que l'Inde, avec une présence spirituelle encore plus forte. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Inde pour la spiritualité, mais je trouve qu'au Népal, elle se ressent d'autant plus parce que les habitants incarnent quasiment tous. J'aime pas trop faire de généralité, mais c'est vrai que dans leur façon de vivre au quotidien, ils ont tous cet état hyper apaisé, hyper calme, où on sent qu'ils ont une espèce de sérénité, ils méditent beaucoup, et je trouve que ça se ressent dans les énergies du pays, qui fait que au-delà des paysages qui sont incroyables et de la gentillesse des habitants, il y a cette force au-delà de tout qui rend le Népal encore plus poignant qu'il l'est déjà. Et si j'ai tant aimé ce pays, c'est aussi parce qu'on a partagé cette aventure népalaise avec des petites pépites humaines. On a passé 4 jours précisément avec une association française qui s'appelle Un Objectif pour Demain, qui a été fondée par Anaïs et Rémi. Et ils nous avaient contactés sur Instagram en voyant qu'on allait passer le Népal. Et en fait, ils étaient précisément au Népal au moment où on y passait. Donc ça, c'est encore une coïncidence incroyable de la vie. Ils nous ont beaucoup aidés dans nos démarches pour la traversée du Tibet. Ils nous ont notamment mis en relation avec Shankar, qui est un guide népalais. Et donc, au-delà du fait qu'ils nous ont beaucoup aidés, on a pu les rencontrer physiquement et partager du temps avec eux pour voir concrètement les différents projets qu'ils mettaient en place au Népal. Donc, avec Un Objectif pour Demain, ils apportent de l'aide aux personnes les plus défavorisées. Ils permettent l'accès à l'éducation à des centaines d'enfants et aussi un accès à l'eau. Par grande surprise et grand bonheur, ils nous ont proposé à Johan et moi d'être parrain et marraine de leur association. Donc on a dit oui. Et c'est la première fois, en fait, depuis notre départ, qu'on rencontre des personnes qu'on sait qu'on va revoir en France et surtout avec qui on va construire quelque chose sur du long terme. Donc c'était hyper important pour nous de savoir que là, on mettait notre pierre à l'édifice en étant au Népal, mais que ça allait aussi avoir un impact sur le long terme et qu'on allait pouvoir continuer ce projet avec eux. Et ça avait un côté hyper rassurant aussi de savoir qu'on allait pouvoir les revoir. Parce que depuis notre départ, on dit toujours des bonjours et des au revoir. Et au final, ces au revoir, c'est des adieux et on le sait, même si on ne veut pas trop se l'avouer. Grâce à eux, on a aussi pu rencontrer Shankar, donc ce guide népalais qui nous a aidé à obtenir toutes nos autorisations pour l'entrée au Tibet. Et il nous a fait découvrir son pays avec tellement d'amour et tellement d'enthousiasme que ça a clairement contribué à mon coup de cœur pour le pays, pour le Népal. Et c'est un peu comme, je pense, les cours de maths au lycée. Une bonne prof, elle peut littéralement te faire aimer les maths, même si tu comprends rien. Et là, c'est pareil, ça peut être sur un moment complètement anodin, mais l'énergie que dégage une telle personne avec qui on est pour partager ce moment, ça peut tout changer de ce moment. Donc voilà, petite réflexion. J'ai dit que j'arrêtais les digressions, donc j'en termine là-dessus. Bref, on a passé pas mal de temps donc avec eux, et en quelques jours, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé une famille, et ça a fait beaucoup de bien au cœur, parce que j'ai réalisé que la chaleur humaine d'une famille, finalement, ça me manquait, vu que depuis notre départ, ça va faire bientôt 6 mois qu'on est sur la route. On vit toujours tous les deux avec Johan, mais on n'a jamais vraiment une présence familiale, un cocon familial. On en a de temps en temps dans chaque pays, quand on dort chez l'habitant, mais là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas ressenti cette chaleur humaine, et donc c'était hyper plaisant. Donc cette petite parenthèse népalaise est terminée, on en vient au Tibet. Le Tibet qu'on a traversé en 4 jours avec une agence et une guide. Il faut savoir qu'on est obligé aujourd'hui de passer par une agence pour pouvoir traverser ce territoire qui est très contrôlé. J'ai jamais autant été contrôlée de ma vie, tout comme j'ai jamais été autant regardée, je pense, avec des gros yeux en tant qu'étrangère. Il y a vraiment eu des contrôles toutes les 30 minutes, toutes les heures à peu près. Et c'était presque flippant, en fait, d'être autant contrôlé et de sentir, au final, qu'on n'avait pas notre place sur ce territoire-là. On l'a traversé donc en 4 jours, mais c'est conseillé, très recommandé d'ailleurs, de le traverser en 6 jours. Nous, par manque de temps, voilà, on a poussé à 4 jours, mais en effet, c'est pas recommandé puisqu'il y a beaucoup d'altitude à appréhender, et pour le corps c'est peut-être beaucoup. Nous, on a traversé donc 2 cols à 5000 en l'espace de très peu de temps, et c'est vrai que physiquement, autant Johan que moi, on a ressenti quand même des petits signaux. Moi, j'ai eu quelques vertiges, des mal de tête et des essoufflements, en fait, le moindre pas, je vais pas dire pas, mais bon, c'est vrai qu'on marche 5 minutes et on sent qu'on est très essoufflé. Mais voilà, les paysages étaient absolument incroyables, avec ce sentiment d'appartenance au monde qui est juste unique, puisqu'il n'y a personne sur les routes. Et comme je disais, on en vient presque à se demander ce qu'on fait là, quoi, tellement on est au milieu de rien. Et on a eu d'ailleurs beaucoup de chance qu'il ne neige pas, puisque il y a quelques années encore, ces routes, elles étaient complètement fermées l'hiver à cause de la neige, de la glace. Et là, on a encore glissé quelques fois avec la voiture. C'est vrai qu'il y a des passages où on se disait « Oula, est-ce que ça va passer ?» On a patiné une fois, on s'est regardé avec Johan, on s'est dit « Bon, voilà, c'est la fin de Shimla, on va rester bloqué ici au Tibet. » Voilà, mais le réchauffement climatique étant, on a pu traverser le Tibet en plein hiver. Et c'était une expérience absolument fantastique. 4 jours après, on est donc arrivé à Lhasa, cette fameuse ville que j'étais hyper excitée de rencontrer. Puisque Lhasa, c'était revenir sur les pas d'Alexandra David-Nel, 100 ans tout pile après son passage, puisqu'elle y est arrivée en 1924. Donc Alexandra David-Nel, c'est la première occidentale à avoir pénétré Lhasa, et elle est une des femmes qui m'inspire le plus au monde par sa force de vie, son audace, son caractère, sa persévérance, tout ce que vous voulez mettre comme adjectif derrière. Elle a écrit un livre qui retrace toute cette aventure qui s'appelle « Une Parisienne à Lhasa », qui m'avait profondément inspirée. Et j'ai aussi écouté au moins 3 fois l'épisode 48, je crois, du podcast « Les baladeurs » de Léoser, avec Priscilla Telmont, qui est revenue sur les pas justement d'Alexandra David-Nel, qui a refait exactement le même trajet, mais à une époque bien différente, donc avec une facilitation de l'accès sur ce territoire. Et on m'avait prévenu, mais c'est vrai que j'ai été quand même assez attristée par l'omniprésence de la culture chinoise à Lhasa, puisque l'annexion du Tibet a été en 1950, et on voit aujourd'hui que la culture tibétaine est quand même vraiment, vraiment, vraiment brossée et effacée à Lhasa. Il y a toute la culture chinoise que je vais décrire juste après, mais qui est partout dans les rues en fait de Lhasa, les grands magasins, les grandes rues à quatre voies. Et ça, au milieu de Lhasa, c'est vrai que ça dénote un petit peu. On se dit, waouh, on a perdu quelque chose. Et j'ai trouvé ça assez triste, bien qu'on m'avait prévenu. Donc après, depuis Lhasa, on a pris un train de 24 heures jusqu'à Lanzhou pour arriver donc dans la Chine continentale, dans le Gansu. Ensuite, on a pris un train de 7 heures entre Lanzhou et Pékin. Et revenir en Chine, pour moi, c'était particulier puisque c'était revenir dans mes souvenirs d'il y a 5 ans. J'avais passé une année d'échange à Shanghai pour mes études. Et j'ai réalisé que les souvenirs, ils étaient jamais bien loin. Puisque je me suis rappelée de tout, en fait, de toutes ces odeurs, notamment les petits pains blancs qu'on appelle les baozi qui cuisent sur le bord des routes. J'ai presque rien oublié de mes cours de chinois alors que je pensais plus être capable d'aligner deux mots. Et au final, c'est comme si j'étais jamais partie, qu'il suffisait juste de réouvrir le tiroir de cette petite vie. Et je pense que ça peut faire écho sur peut-être d'autres expériences que certains de vous qui écoutez cet épisode peuvent avoir eu à l'étranger, ou c'est un peu comme des parenthèses dans une vie. Et parfois, quand on reprend après notre vie en France, on se dit, bon voilà, je referme ce tiroir, je referme cette parenthèse, et au final, tous ces petits détails qui faisaient mon quotidien, peut-être qu'ils vont m'échapper sur le long terme. Et en fait, non, il suffit juste de revenir pour que tout revienne, toutes les odeurs, toutes les habitudes, tout ce qui faisait notre vie, en fait. Donc ça a été quelque chose pour moi de revenir en Chine et de voir que rien n'avait changé, mais que tout s'était décuplé, puisque la Chine, c'est vraiment le futur, quoi. C'est Big Brother, on est surveillé partout, c'est comme un film de science-fiction. Et c'est, je sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, mais c'est un petit peu ça en vrai. Et là, en l'espace de 5 années, déjà, je m'étais fait la réflexion en venant à Shanghai que c'était quand même frappant de voir à quel point la Chine pouvait être développée, mais d'un point de vue modernité. Et là, 5 ans après, mais c'est encore pire, quoi. Et donc, c'est intéressant aussi de voir jusqu'où peut être poussée la modernisation et les dérives que ça peut avoir. Donc, ça fait presque peur à observer. Et à la fois, je pense que c'est important de voir la vérité en vrai, de voir ce qui peut nous attendre pour aussi peut-être prévenir trop de dérives dans le futur. Après, au-delà de cet aspect-là, c'est vrai que la Chine, c'est bien plus que ça. Je pense que comme pour tout pays, on ne peut pas s'arrêter à un seul avis. Et il faut voir le pays dans son ensemble. Donc la Chine, c'est aussi des campagnes qui, elles, paradoxalement, sont encore dans le passé, pour beaucoup, qui ont encore énormément de traditions. Et c'est ce que j'aime dans la Chine, justement, c'est que tout se croise, autant les cultures, les époques, les paysages, les traditions. Il y a tous les opposés, tous les paradoxes, tous les extrêmes. Il y a les villes qui sont déjà en 2050 et les campagnes qui sont encore en 1950. Et c'est hyper, hyper intéressant de voir sur un même pays à quel point il peut y avoir autant de différences. Donc voilà pour la Chine. Depuis Pékin, après, on a pris un train de 2h30 jusqu'à Ohot. Puis de Ohot, on a pris un autre train de 9h jusqu'à Erenot. Donc Erenot, c'est la ville frontalière terrestre entre la Chine et la Mongolie. Et après, on a passé la frontière depuis Erenot en voiture jusqu'à Zamin-Oudé. Et de Zamin-Oudé, on a pris un train de nuit de 15h, donc notre premier train mongol. Et l'ambiance était incroyable dans ce train-là. Alors, est-ce que c'est que je m'habitue aussi un peu à dormir dans les trains, mais j'ai vraiment super bien dormi. Et il y avait une ambiance, je sais pas, dans ce train hyper chaleureuse où j'ai trouvé les Mongoliens très respectueux. Ils faisaient pas de bruit, bien qu'ils rigolaient beaucoup, mais ils se sont vite arrêtés de rigoler. Mais il y avait, ouais, ils étaient très peu sur leur téléphone déjà, donc ça fait beaucoup. Et donc ils étaient dans l'échange, ils rigolaient, on avait l'impression que tout le monde se connaissait, alors que j'ai pas l'impression que les personnes qui étaient dans le même compartiment étaient de la même famille. Mais voilà, ils partageaient leur nourriture, ils jouaient aux cartes, ils rigolaient, on comprenait rien de pourquoi, mais ils rigolaient. Et ouais, il y avait vraiment une ambiance suspendue avec une petite lumière tamisée. La lumière, elle n'était pas agressive comme il peut y avoir parfois dans les transports. Et c'était trop trop beau ce moment, cette traversée. Et l'arrivée le matin, mais tellement magnifique, puisque on était du coup au milieu des steppes. Mais enneigé, vu qu'il fait, il fait moins. Quand on est arrivé, il faisait moins 25 degrés. Et donc, tout est enneigé. Et de voir le soleil se lever à travers la fenêtre du train et de le voir percer des montagnes, ça colore tout de ce ton rosé. C'était magnifique. Et j'ai vraiment eu ce sentiment d'appartenance au monde qui était trop, trop beau, d'instant suspendu, magnifique. Et donc, on est arrivé à Ulaanbaatar, ville dans laquelle on est actuellement et depuis laquelle j'enregistre cet épisode. On est pour 3 jours ici, le temps de recharger un petit peu les batteries avant le fameux dernier train retour du Transsibérien. Donc même si géographiquement on s'éloigne encore de la France, temporellement on n'a jamais été aussi proche. Et je crois que pour moi c'est très difficile d'imaginer le retour. Pour la première fois, je vois un petit peu la finitude de cette aventure et ça me crée beaucoup d'anxiété. Ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai des insomnies la nuit, alors que d'habitude ça m'arrive jamais. Et là j'essaie de mettre des mots sur pourquoi, qu'est-ce qui m'angoisse, voilà. Mais c'est très compliqué d'arriver à méditer là-dessus. Et autant j'aurais besoin d'énormément de temps de méditation le matin et j'arrive beaucoup moins à méditer qu'avant. Donc c'est hyper paradoxal. Je sens que j'ai besoin d'un gros temps de digestion et de comprendre ce qui est en train de se passer, mais j'arrive pas à prendre ce temps-là. Voilà, je sais pas si ça vous fait ça parfois. Mais là, voilà, depuis des années, je prépare cette aventure et là, je vois enfin le bout, en fait, le dernier train. Et même si, évidemment, la partie montage, ça sera une nouvelle aventure en soi quand on va rentrer en France, toute la partie aventureuse sur la route, de la rencontre, celle-là, elle se termine. Et je crois que ça me fait peur, en fait, de rentrer en France et de retrouver un petit peu ce tiroir de vie que j'ai mis sur pause pendant 6 mois. Et je sais pas dans quel état je vais le retrouver, et à la fois moi dans quel état je vais me retrouver aussi, puisque je sais que j'ai énormément appris de moi-même et changé aussi intérieurement. Et du coup, c'est comme si j'avais peur de la personne que j'allais rencontrer, qui est moi-même, à mon retour en France. Je sais pas si c'est très clair, ça l'est même pas tout à fait pour moi. Mais j'ai tellement changé que je sais plus qui je suis en France, quoi. Et à la fois, je suis trop, trop, trop excitée de rentrer, puisque y a tellement de belles choses qui m'attendent avec la sortie de mon livre, la reprise du podcast. J'ai tellement hâte de reprendre les enregistrements, de proposer de nouvelles interviews sur Nouvel Oeil, d'attaquer le montage aussi du film pour vraiment rendre ça concret, de nouer un petit peu toutes ces images qu'on a prises en 6 mois d'aventure. C'est énorme. Donc je suis très, très, très excitée à l'idée de rentrer en France. Et à la fois, c'est mêlé avec une énorme nostalgie que j'ai, je pense, jamais ressentie aussi vivement de toute ma vie. Donc voilà, là je crois qu'on peut maintenant compter les trains sur le doigt, peut-être pas d'une main, mais de 2 mains en tout cas. Pour sûr, on a moins de 10 trains à prendre maintenant, puisque là on va passer la frontière russe d'ici 2 jours, 2 ou 3 jours. Et après, depuis la Russie, transsibérien, donc on va prendre le transsibérien à côté du lac Baïkal. Je vais pas m'aventurer sur le nom de la ville depuis laquelle on le prend, puisque c'est Irkutsk, je crois. C'est très compliqué à prononcer. Mais on va avoir après 3 jours et 12 heures, je crois, de traversée jusqu'à Moscou. Et depuis Moscou, après, on va rejoindre l'Europe et redescendre en France. Donc voilà, c'est tout proche, tout proche. Le retour n'a jamais été aussi proche. Et à la fois, j'essaie de encore une fois, ne pas trop projeter le retour en France, puisqu'il reste encore quelques jours à vivre, quelques semaines à vivre, et avec de très belles rencontres, de très beaux paysages, et ça serait dommage de gâcher ces derniers moments en imaginant trop ce qu'il pourrait y avoir dans un futur proche. Donc voilà, et ça je pense que ça vaut pour à peu près toutes nos vies. Voilà pour le petit tour d'horizon des dernières semaines. J'en ai terminé, je vais arrêter cet épisode ici, et je ferai un dernier récit d'aventure pour vraiment faire... déjà la partie transsibérien, vous raconter un peu comment c'est passé, surtout que je vais me mettre dans des conditions particulières que je vous dévoilerai plus tard, mais je vais vraiment pousser l'expérience au bout. Et je vais aussi prendre le temps de répondre à vos questions sur peut-être les retours de cette aventure en général. Je pense que je vais avoir un certain temps de digestion nécessaire pour justement prendre du recul sur cette aventure. Mais si vous avez des questions précises liées à Shimla, liées au voyage ou autres, n'hésitez pas, comme ça j'en sélectionnerai quelques-unes et j'y répondrai dans le dernier récit d'aventure. Puisqu'après je vais reprendre sur un rythme hebdomadaire la publication des interviews et je me réjouis mais trop à l'idée de reprendre les enregistrements. Et il y a d'ailleurs de très beaux invités qui arrivent prochainement sur Nouvel Oeil. Merci toujours d'être ici, d'écouter ces petits récits d'aventure. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que voilà, tu as réussi à accrocher. Donc merci beaucoup pour ton écoute. Merci aussi pour tous les messages vraiment que je reçois d'amour sur Instagram particulièrement. Ça me donne tellement d'énergie les jours où j'en ai un petit peu moins. Donc merci du fond du cœur. Et puis ben, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi. Ou quoi que ce soit, d'où que vous soyez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.